Kodjo Ndoukouma, bonjour.
Bonjour.
Une nouvelle taxe sur la messagerie financière et transfert de fonds, c'est le ministère des PTNT qui propose son institution dans la loi des finances exercice 2016. Mais cette taxe est contestée par les opérateurs des télécommunications qui redoutent une double taxation du fait qu'elle est déjà perçue par la Banque centrale du Congo. Votre réaction?
Il s'agit en réalité d'harmoniser parce que l'activité de transfert de fonds est autorisée effectivement au niveau de la Banque centrale du Congo avec les instructions administratives de cette banque. Mais la messagerie financière électronique fait appel également à des ressources de télécommunications. Il y a un fonds de commerce qui se crée simplement avec le parc d'abonnés téléphoniques. Et lorsque les opérateurs ont obtenu leur licence d'exploitation, c'était pour exploiter un type de service de transmission de la voix et maintenant de transmission de données. Maintenant, les services financiers à distance font même en Europe l'objet d'une directive spécifique qui inscrit cette matière dans la commercialisation des services financiers à distance. Ça veut dire que les services financiers empruntent une voie de communication électronique. Donc c'est une matière qui fait bien sûr appel au rôle de centre d'émission de la monnaie joué par la Banque centrale, mais qui fait aussi appel à la surveillance ou à la régulation des activités de télécommunication qui prennent une forme nouvelle en termes de services à valeur ajoutée.
Mais pourquoi associez-vous les établissements de monnaie électronique à la téléphonie mobile? Parce que les opérateurs des télécommunications estiment que ce sont deux entités distinctes.
Ces deux entités distinctes, certes, et je ne discute pas ce fait-là, mais les ressources utilisées sont pratiquement les mêmes. Lorsque vous regardez les labels d'exploitation de ces services financiers à distance, ces labels sont très proches des labels des gens existants des sociétés de télécommunications. C'est le premier indice. Le deuxième indice, c'est que vous ne pouvez pas émettre de la monnaie électronique sans lien avec les abonnés que vous avez déjà. Sinon, vous ferez de l'interopérabilité. Ça veut dire un abonné d'une société X pourrait également transférer de l'argent à l'abonné d'une société Y. Mais si ça se fait simplement au niveau de l'intra-réseau, ça veut dire qu'on utilise le fonds de commerce créé par ces services mobiles. Troisième élément, quand on regarde les ressources radio qui sont utilisées, c'est les mêmes ressources qui sont utilisées par les deux entités. Et donc, nous partons de l'idée que la fiscalité doit aller vers la réalité et non vers la construction juridique des sociétés. Parce que tous les éléments qui amènent à la fourniture de ces services, soit-il par des personnalités distinctes, donc la fourniture des services de voix et des services financiers, même si on les distingue sur le plan juridique, mais dans les faits, ils ont pour cible les mêmes abonnés, ils utilisent les mêmes ressources radio et ils utilisent en fait les mêmes structures et équipements qu'il y a pour les services de la voix et pour les services financiers.
Autre chose, dans la loi des finances exercice 2016, les redevances annuelles relatives à l'ensemble du chiffre d'affaires passent de 2% à 3%, soit 50% d'augmentation. Qu'est-ce qui justifie ces réajustements significatifs? Est-ce pour pallier au déficit du secteur minier actuellement en difficulté, comme vous accusez les opérateurs des télécommunications?
Il y a ce qu'on appelle le benchmark, ça veut dire une comparaison des structures de marché plus ou moins analogues. Lorsque nous avions fait ce benchmark, nous nous étions rendus compte que les 2% que on demandait sur le chiffre d'affaires pour la redevance de la licence étaient d'1% moins cher, par exemple, qu'au Burkina Faso, à l'époque, il y a 7 ans. Aujourd'hui, nous revenons à des proportions de 3% qui sont des proportions acceptables au niveau du benchmark dans la région. Encore faut-il dire que cette redevance sur le chiffre d'affaires exclut, lorsque on doit payer cette taxe, un certain nombre de revenus jugés comme étant des revenus hors exploitation par les opérateurs. Par exemple, la vente des téléphones ne fait pas partie de la déclaration du chiffre d'affaires. Donc, on poursuit ce qu'on appelle en anglais les net operating incomes, donc les revenus nets d'exploitation. Et c'est comme ça qu'on a souvent l'impression que les chiffres d'affaires déclarés par les opérateurs est un chiffre d'affaires minoré. Deuxième chose, il y a également la fraude téléphonique. Toute l'activité qui passe par les réseaux des opérateurs n'est pas toujours tracé. Ce qui fait que la maîtrise réelle du chiffre d'affaires des sociétés de télécommunications pose problème. Quand on parle du taux de 2% ou de 3%, est-ce que ces 3% embrassent effectivement l'ensemble des revenus des opérateurs? J'en doute.
Mais, M. Kodjo, avez-vous pensé au sort des consommateurs parce que les opérateurs de télécommunications disent que les réajustements significatifs de la redevance annuelle va beaucoup peser sur les consommateurs du fait qu'il va entraîner une hausse généralisée des tarifs des télécommunications avec risque d'impacter sur la consommation des services par les clients?
Je dis que c'est faux et je le dis de manière tout à fait posée que c'est faux. Lorsque, au début de cette année, nous avons mis en place le prix plancher des tarifs de communication, ramenant ce prix qui avait chuté à 3 cents à des proportions qui montent aujourd'hui à 6 cents. Le même argument avait été évoqué à un moment pour dire que le consommateur qui a un pouvoir d'achat le plus faible ne saura plus consommer les services de télécommunication. Mais ces services, dans leur consommation, sont toujours en hausse. Et chaque fois, il y a plus d'abonnés.
Vous l'avez dit, Kodion Dukuma, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.